Je crois que, puisque tout marchait tout à l'heure, le PowerPoint va s'afficher. On a le PowerPoint en bas ici. On ne sait pas. Ah si, voilà. Comme je vous l'ai annoncé, j'ai vraiment à cœur, à partir de ce soir, de démarrer une grande thématique sur la prière. Un jour, les disciples ont fait cette demande, c'était déjà une prière inspirée. Ils ont fait cette demande, ils ont fait cette prière à Jésus. Et ils ont dit, Maître, enseigne-nous à prier. À l'époque de Jésus, la prière existait déjà. On enseignait, les rabbins enseignaient la prière. Jean-Baptiste enseignait la prière à ses disciples. Mais dans tout ce monde religieux, là où il y avait des rabbins, on avait beaucoup de lourdeur, de protocoles, beaucoup de liturgie, beaucoup de phrases toutes faites, des répétitions, etc. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de paroles, mais tellement peu de résultats. Et puis les disciples, ils voient que Jésus, vous savez que les disciples n'étaient pas toujours avec Jésus, ils le suivaient, mais il y avait des tas de moments où ils étaient séparés de lui. Jésus, à un moment tôt, le matin, est dans un désert, tard le soir, parfois la nuit, à d'autres moments de la journée. Et les disciples voyaient bien, ils n'avaient pas accès à ces moments-là, et ils voyaient bien que le Seigneur, lui, avait des moments auxquels ils n'assistaient pas, mais ils savaient que c'était dans ces moments-là que se passait l'essentiel qui allait faire ensuite l'efficacité du ministère de Jésus. Et ils avaient compris qu'il y avait un lien étroit entre ce que Jésus vivait dans l'intimité du Père, là où il ne pouvait pas aller, il n'allait pas avec Jésus, et toute l'efficacité de Jésus, et tout ce qu'ils voyaient, et tout ce qu'ils entendaient qui était magnifique et qui percutait les cœurs, et les corps, et tout ce que Jésus faisait. Et ayant compris ça, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce qu'il y avait dans leur cœur, il y avait une lassitude de ces prières répétitives. On le verra, on a beau être disciple de Jésus, combien de fois, frères et sœurs, je m'en suis rendu compte, vous le savez aussi, il y a des moments, évidemment, on est là, on ne sait plus trop quoi dire au Seigneur, on est un petit peu en panne, on sent qu'on se dit, ah, où est la limite entre ma persévérance? Puis à quel moment j'ai quand même le sentiment de multiplier des vaines paroles. Et puis il y a des moments, il y a des vies chrétiennes, parce qu'on n'a pas médité la thématique de la prière dans sa profondeur, où en définitive, ce sont nos bouches qui ont commencé par se fermer. Et puis même ensuite de nos cœurs, ça s'étiole. Puis on est là, et puis qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire et... La prière, frères et sœurs, les disciples l'avaient compris, ils ne savaient pas comment la pratiquer. Mais ils avaient compris qu'il y avait une dimension et une puissance extraordinaire dans la prière. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé à Jésus, qu'ils ont dit, Maître, enseigne-nous à prier. Et c'est vrai qu'on peut parler régulièrement de diverses occasions, de temps en temps, de messages par-ci, par-là, mais en réalité... Même si on rappelle tout le temps des vérités, je crois que c'est extrêmement important, frères et sœurs, d'approfondir ce sujet dans nos réunions, dans nos églises, dans notre construction de vie de disciples. Parce qu'en réalité, c'est bien plus qu'un sujet. La prière, c'est une grâce. La prière, c'est un merveilleux privilège. Ce n'est pas possible que l'on s'ennuie dans la prière. Il y a des multitudes de facettes qui sont enseignées dans la parole au sujet de la prière. Ce n'est pas possible que l'on s'ennuie. Le Seigneur a mis dans sa parole tout ce qu'il faut pour que l'on ne tombe jamais en panne sèche dans la prière. Et on a ici quelque chose d'enthousiasmant, c'est passionnant. Il y a énormément de belles choses à vivre, il y a beaucoup de facettes. La prière, elle est riche, elle est variée. C'est pas seulement, on ne prie pas seulement pour obtenir des bénédictions. Le drame de beaucoup de vies chrétiennes qui sont sincères et de bonne volonté, c'est que malheureusement, la prière se résume très souvent par prier et demander, faire connaître nos besoins ou ceux des autres. Et c'est pour ça que très souvent, la prière de beaucoup de bien-aimés, plein de bonne volonté, finit pas un peu par tourner en rond, elle est frustrante, on n'obtient pas les résultats, on n'a pas l'épanouissement qu'on devrait avoir, parce qu'en réalité, la prière, c'est pas seulement pour obtenir ce que Dieu a préparé pour nous. La prière, c'est une bénédiction. Prier est une grâce. Prier est un privilège. Prier me met en contact avec le Dieu du ciel. Prier permet à mon âme, on le verra, de s'élever dans sa dimension à lui. Et le but de cette série, Enseigne-nous à prier, c'est vraiment, soit peut-être pour toi, bien-aimé, de découvrir pour certains ou pour un autre, de redécouvrir tout ce qu'il y a de merveilleux dans la prière et de vivre un nouvel élan dans la prière et que votre vie de prière, comme je vous l'avais annoncé, soit constamment renouvelée, qu'elle soit efficace et puis qu'on ne tombe pas dans cet essoufflement, mais au contraire qu'on soit dynamisé dans notre vie de prière. Il faut toujours, toujours, toujours apprendre à prier mieux avant d'apprendre à prier plus. C'est vrai qu'il y a des facettes dans l'Écriture qui me parlent de la persévérance dans la prière. Mais la Bible me met aussi Jésus en garde contre la multiplication de vaines paroles. Et il y a vraiment ici quelque chose de profond à comprendre. Apprendre à prier, apprendre les différentes facettes de la prière, apprendre à prier mieux avant de prier plus. Et c'est pour ça qu'on va reconsidérer toutes ces facettes ensemble. Mais d'abord, on passe à l'image suivante, mais d'abord, on va juste parler du principe de prier. Et prier, c'est pas seulement à l'église. Prier, c'est pas seulement ici, dans la communion de mes frères et sœurs. Alors avant de voir différentes facettes de la prière, je commence par le béaba. Mon frère, ma sœur, tu pries comme tu peux, tu pries ce que tu peux, mais je t'en supplie, ouvre ta bouche et prie. Et n'attends pas d'être dans la panade, n'attends pas que les situations s'aggravent, prie tout de suite, prie avant que les situations ne se compliquent. Et à la lumière de ce qu'on va lire ensemble ce soir dans le psaume 109, je vous pose une première question, la prière. Premier recours ou dernier secours? La prière, premier recours ou dernier secours? Et on va voir des exemples bibliques et vous allez comprendre des situations dans lesquelles les uns et les autres ont prié tout de suite et d'autres ont prié plus tard et vous allez voir ce qui s'est passé. Psaume 109, un psaume de David. On va lire simplement les quatre premiers versets, l'ensemble du psaume serait trop long. Juste les quatre premiers versets, psaume 109, les versets 1 à 4. Au chef des chantres, psaume de David, Dieu de ma louange, ne te tais pas, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, dites-le, je recours à la prière. Amen. Et David ne dit pas ça, je ne sais pas combien de temps après, David dit ça tout de suite, c'est une façon pour lui, tout de suite, de prendre position, on peut avancer, merci beaucoup. Dans ce contexte, et on va voir différents contextes, mais d'abord je regarde ce contexte, le diaporama avance. Vous savez, les contextes sont toujours extrêmement importants dans la parole de Dieu. Quand on a compris les contextes, on comprend beaucoup mieux ce qui est dit. Il ne faut jamais prendre des textes en dehors de leur contexte. Sinon, c'est comme ça qu'on fait des prétextes pour dérailler doctrinalement. On peut avancer, si c'est possible. Ici, le contexte, on va en voir plusieurs ce soir, le contexte immédiat de David, c'est un contexte de persécution. David, ici, est probablement poursuivi soit par Saül, soit par Doeg, si vous lisez 1 Samuel 21-22, certains théologiens ont rapproché cet épisode de Doeg l'Édomite. Doeg qui à un moment est le bras armé de Saül pour assassiner Achimélec et 85 sacrificateurs de Nob. Et c'est justement parce que Achimélec avait secouru David. Et que ce soit Saül ou Doeg, de toute façon, David est à ce moment-là entre 1 Samuel 18, 1 Samuel 26, peut-être plus précisément 1 Samuel 21-22. Là, il est faussement accusé, c'est le verset 2 qui me le montre. Il est, merci beaucoup, il est confronté à la haine, à la méchanceté. On s'oppose à lui sans raison. David a le cœur pur. Et là, David, c'était pas un homme parfait, mais à ce moment-là, il a le cœur pur. Il n'a rien à se reprocher, d'où la douleur qui est d'autant plus forte. Et il invoque le Dieu qui lui fait justice. David, une fois de plus, va refuser de se faire justice lui-même. Et dans cette persécution, le réflexe immédiat, tout de suite, moi, je recours à la prière. David a compris, ici comme à bien d'autres occasions, c'était un principe de vie, un réflexe, c'est une façon d'être. C'est une façon d'agir. Je baisse. Je vais abîmer vos oreilles et je ne veux pas. C'est une façon de réagir, quel que soit le contexte. Peu importe le contexte de vie dans lequel je suis, on va en voir plusieurs. Le premier réflexe, c'est toujours la prière. Le premier secours, le premier recours, c'est toujours la prière. Et c'est comme ça qu'on s'évite bien des tourments et bien des complications dans bien des situations. David, ici, tout de suite, n'a rien fait et il n'a rien dit sans avoir d'abord consulté Dieu. Cette question ne peut pas vous concerner, mais moi je me la pose, elle me concerne moi, et je me dis plus d'une fois, ah on est deux alors merci, plus d'une fois, je me suis dit, mon petit Steph, est-ce que tu es bien sûr d'avoir consulté Dieu correctement avant de faire ça ou avant de dire ça? Et il y a bien des moments, frères et sœurs, où juste parce qu'on n'a pas consulté Dieu, on a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Et on a eu des réactions, des actions ou des réactions qu'on n'aurait pas dû avoir. Et ce qui est difficile, et on le verra, la prière c'est aussi une capitulation, la prière c'est un abandon, la prière c'est savoir se taire, la prière c'est renoncer à notre propre volonté, la prière c'est se tenir humilié et même parfois brisé, c'est salutaire, au pied de Dieu. Mais c'est savoir aussi la prière, ne rien faire, ne rien dire, tant qu'on n'a pas consulté Dieu, quel que soit le sujet. Ça, c'est dur, parce que c'est contre notre nature humaine, c'est contre notre nature charnelle. Frères et sœurs, je le sais, c'est humain, nous sommes tous comme ça. Nous n'aimons pas ce que nous ne comprenons pas, nous n'aimons pas ce que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes des maniaques du contrôle. Il faut que je contrôle tout. J'aime bien avoir la main, j'aime bien. Il faut que je gère, il faut que je sache, il faut que je... La prière, c'est un abandon au pied de Dieu. On aime bien contrôler, on aime bien gérer, on aime bien se justifier. Mais là, David, il a ce réflexe, et très souvent il l'a eu, pas toujours, mais là encore, il a ce réflexe, surtout de ne rien faire et de ne pas agir contre ses persécuteurs, de ne même pas leur répondre, alors qu'il ne sait pas encore, il n'a pas encore consulté Dieu. Je vous disais dimanche que, justement, dans 1 Samuel, à partir de 1 Samuel 27, David va vivre un épisode particulièrement tragique de sa vie, puisque, juste pour une seule pensée, souvenez-vous, je vous ai dit pour une seule pensée, il va complètement dérailler alors que Dieu l'a délivré deux fois de la main de Saül. Pour une pensée, il a laissé libre cours à une pensée qui n'était pas de Dieu. Et cette pensée l'a égaré chez les Philistins et au service du roi Achish. Il s'est rendu au Dieu et Israël, son peuple, pendant 16 mois. Mais voyez, un autre problème encore plus profond, en dessous, un problème encore plus fondamental. C'est vrai qu'il a une pensée, ce n'était pas une idée de génie, mais alors c'était même une idée catastrophique. Mais si cette pensée, avant de la mettre à exécution, il l'avait soumise à Dieu. Si dans 1 Samuel 27, au moment où il se dit « C'est vrai que Dieu m'a secouru, mais un jour Saül il va vraiment finir par m'avoir. Il n'y a pas d'autre solution pour moi que d'aller me réfugier au pays des Philistins. Je vais aller voir le roi Achish et je vais faire des compromis. » Il aurait pu quand même prendre le temps, et c'était ça le problème au fond du fond, le problème fondamental, d'aller au pied de Dieu et dire « Seigneur, je te soumets cette pensée, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce qu'il faut que j'aille chez Achish ou pas ?» Bien sûr, Dieu lui aurait dit « Non, surtout pas, va pas là-bas. » Et quand, au bout de 16 mois, David sort de ce fiasco, il était dans un tel fiasco que même ses hommes étaient tellement dans le chagrin et dans l'aigreur, quand d'autres ennemis, il a fui un ennemi d'un côté, mais les autres ont fondu sur lui. Et quand les Amalécites sont venus et qu'ont fondu sur Tsiklag, son faux refuge, une fois qu'ils ont fondu sur lui, même ses hommes pensaient à le lapider. Ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps jusqu'à ce qu'ils aient plus rien à pleurer. Et ils pensaient même à le lapider. Et David se retrouve dans un désarroi total. Le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas la gravité du problème. C'est qu'à ce moment-là, David, il revient dans son bon sens et il reprend ses principes premiers. Savoir, je ne vais pas essayer de m'en sortir sans consulter Dieu. Donc il prend l'éphod au sacrificateur et avec l'éphod, il va consulter Dieu. Seigneur, il se repent. Que dois-je faire ? Irai-je ou n'irai-je pas ? Poursuivrai-je ? Si je poursuis, vais-je les atteindre ? Vais-je délivrer ? Et Dieu lui dit oui. Poursuis, tu atteindras et tu ramèneras tout ce que l'ennemi t'a volé, tu le ramèneras. Et il a tout ramené, 1 Samuel chapitre 30. Frères et sœurs, c'est un principe. Tu pries ce que tu peux. Apprendre à prier, prier ça s'apprend. Faire des progrès dans la vie de prière, ça s'apprend. La prière, ce n'est pas des grands mots, ce n'est pas des formules toutes faites, ce n'est pas des éloquences. La prière, c'est d'abord une attitude de cœur, on le verra. Mais mon bien-aimé, comprends cela. Peu importe ta situation, peu importe les pensées qui sont dans ton cœur, peu importe ce que tu aimerais dire et faire, peu importe ce qui te semble bon ou pas bon pour tel ou tel domaine, ne fais jamais rien sans avoir consulté Dieu. Amen. La prière ne doit pas être un dernier secours. Une fois que je suis bien dans la panade, tiens, je vais demander à Dieu de faire quelque chose pour m'en sortir, même si par la repentance, il y a encore des moyens, évidemment. Non, la prière, Seigneur, je veux que ce soit mon premier recours, parce que c'est dans mon intérêt. Amen. On peut passer à l'image suivante, merci beaucoup. D'autres contextes. Là, j'élargis, je sors du psaume 109, j'élargis. Regardez trois autres contextes différents. Nous sommes des maniaques du contrôle et nous avons besoin toujours de tout gérer, notamment par rapport à la question du péché. La première chose que Adam et Ève ont fait après avoir péché, quand leurs yeux spirituels se sont ouverts et que la honte, l'opprobre s'est attachée à eux et que la peur est rentrée dans leur cœur, à cause du péché, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'aller se cacher. Où es-tu, Adam ? Où es-tu ? Et au lieu de venir à Dieu, il avait péché. Quand on a péché, vous voulez faire quoi d'autre à parvenir au Dieu qui pardonne ? C'est pas évident pour tous les chrétiens. Parce que on a peur, on a honte. Est-ce que Dieu va encore me pardonner ? Est-ce que Dieu va encore m'accepter ? Est-ce que c'est pas fini pour moi ? Et le diable, c'est fini pour toi. Est-ce que tu as fait ? Et puis tu avais dit que tu le ferais plus. Et puis tu l'as refait. Ah oui, une très très mauvaise prière. Ne faites jamais de promesses à Dieu. Sérieusement. Ne faites jamais de promesses à Dieu. Ne dites jamais, Seigneur, je ne ferai plus ça. Seigneur, c'était la dernière fois. Parce que c'est comme ça, quand on fait des promesses à Dieu, nous n'avons pas le droit. Le seul qui peut faire des promesses, c'est le Seigneur lui-même. Parce que lui, il est Dieu, lui, il est saint, et lui, il a le contrôle des événements et des circonstances. Et lui, il est souverain, et sa parole à lui, elle est éprouvée. Mais la mienne, non. Donc je ne fais pas de promesses à Dieu, je ne prends pas des engagements en disant hey, « Seigneur, tu verras, mais c'était la dernière fois. » Seigneur, par ta grâce, je veux me maintenir dans ta communion parce que c'est ça ma véritable liberté. Adam et Ève, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'essayer, en se couvrant de feuilles de figuier, ils ont essayé de se justifier. C'est ce que signifie leur acte. Ils ont essayé de se justifier. Les feuilles étaient un signe d'auto-justification. Et puis, on a aussi l'exemple de David. David, après son adultère avec Bathsheba, la première chose qu'il a essayé de faire, c'est de tout dissimuler. Il a essayé de gérer le truc par lui-même. Et comme si ça ne suffisait pas d'avoir déjà péché, il a tout aggravé. Parce qu'il s'est dit, tiens, si je fais rentrer le mari de Bathsheba, Ouri, fallait être tordu quand même, hein, je vais le faire rentrer. Puis je vais lui dire, tiens, c'est que t'es un super soldat, toi. Oh, t'es tellement bien, t'es tellement brave. On aurait besoin de tellement plus de chrétiens comme toi dans l'église, etc. Viens, réjouis-toi, bois avec moi, puis ensuite va voir ton épouse, va voir ta femme. Il s'est dit, si ça marche, elle sera enceinte de son mari et jamais personne ne sera au courant de rien. Seulement, Ouri est un homme droit et intègre. Il dit, roi, mon seigneur, roi David, comment est-ce que je pourrais, moi, être là en train de m'égayer avec ma bien-aimée pendant que mes hommes sont au front? Merci, roi, mon seigneur, mais je décline l'offre et je retourne à ma place me battre avec mes hommes. Très embêtant. De qui va être cet enfant? Alors il se dit, ouh, il donne des ordres à son chef d'armée, il envoie un courrier, surtout faites bien en sorte que Ouri soit en première ligne, de sorte qu'on soit... Quelle horreur! C'est une espèce de meurtre commandité quand même. Hein, si au lieu de gamberger, après avoir péché, des chrétiens revenaient tout de suite, humblement à leur Dieu dans la repentance en disant « Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais toutes choses. Voilà qui je suis, je te demande pardon. » Et qu'on n'ait pas peur de s'humilier. On s'éviterait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup, beaucoup de dégâts. Parce que les situations, pour les avoir camouflées, pour les avoir dissimulées, eh bien, de toute façon, rien n'est jamais réglé. Et David, lorsqu'il a voulu gérer et dissimuler son péché, en plus d'avoir péché et d'avoir commis adultère, il s'est rendu meurtrier. S'il était venu tout de suite à Dieu, si la prière avait été son premier recours, le Seigneur l'aurait pardonné instantanément. Et puis, ça aurait évité tellement de complications derrière. Mais là encore, pendant des mois et des mois et des mois, David a joué la comédie. Puis un jour, c'est Dieu dans sa grâce qui envoie le prophète Nathan et qui va expliquer à David ce qu'il a fait, lui dire, tu vois David, c'est pas que Dieu t'aime pas, mais tu ne te repens pas. Et comme tu ne te repens pas, tu n'es pas restauré. Tu es cet homme-là. Et c'est seulement à ce moment-là que David a dit, oui c'est vrai. Voilà qui je suis. Et le Seigneur l'a restauré. Mais combien de temps David aurait-il épargné? Combien de douleurs? Même des vies humaines il aurait pu épargner si, en tout cas celle d'Ouri, le Hessien, si il avait fait de la prière, même dans sa chute, il avait fait de la prière son premier recours. Dans les contextes de besoin, dans les contextes de manque, pareil, on est toujours en train de chercher des solutions, et l'âme, elle s'agite, les pensées partent dans tous les sens. Et on est même prêt à faire des compromis. Regardez cette histoire d'Abraham et Sarai. Oui, oui, c'est vraiment eux qui ont inventé la GPA. Hein. D'accord ? C'est pas un jeu vidéo, hein, la GPA. C'est la gestion pour autrui. C'est vraiment l'idée que je vais mettre enceinte une autre pour avoir des enfants au nom de ma femme. C'est vraiment, ils ont vraiment inventé la GPA. C'est vraiment le premier cas dans la Bible. J'ai fait exprès de mettre ça, mais c'est vraiment eux qui l'ont inventé. Abraham et Sarai, le Seigneur se présente à Abraham. Abraham a 75 ans. Et puis le Seigneur lui fait des promesses, il lui montre qu'il aura une descendance, une postérité plus nombreuse que les sables, le sable de la mer, impossible à compter, les étoiles du ciel, impossible à compter. Puis le temps passe, parce que c'est l'apprentissage de la foi. Abraham va devenir Abraham, il deviendra le père de la foi, mais ça ne se fait pas en 3 minutes. Il est dans un chemin de foi, comme vous, comme moi. Et puis là, ça fait déjà 10 ans. Ça fait 10 ans que Dieu a promis, ça fait 10 ans qu'il ne se passe rien. Puis Abraham, il a une idée. Il parle à Dieu, puis il dit « Ah Seigneur !» Parce qu'il y avait une coutume déjà qui existait à l'époque. Savoir que quand un couple n'avait pas d'enfant, un serviteur qui était né dans la maison pouvait devenir héritier. Et du coup, Abraham, il a une super idée. Enfin, elle est complètement nulle au plan, aux yeux de Dieu, mais pour lui, c'est une super idée. Il dit « Ah mon Seigneur, Seigneur, que Eliezer... le premier-né dans ma maison, que Eliezer, mon serviteur, né dans ma maison, il est né dans ma maison, ce serviteur, eh bien que Eliezer soit ma descendance, et ainsi comme ça, ben Seigneur, ça va m'éviter d'attendre, entendre encore. On dit que c'est lui, puis on n'en parle plus, parce que quand on attend, la patience de la foi, c'est long, hein, on est tous pareils, hein, je suis bien d'accord, ma sœur, on est tous les mêmes. C'est long, oh que c'est long. Certains chemins avec le Seigneur peuvent être bien longs, même s'il est le rémunérateur de la foi. Amen. Et puis Abraham, alors qu'il a cette idée complètement nulle, le Seigneur lui dit « Non, Abraham, ce sera un enfant, et Dieu précise la pensée et la promesse, un enfant qui sort de tes entrailles. » Ça fait 10 ans qu'il attend la promesse, il a 85 ans, et Agar va accoucher à 86. Ça veut dire que dans les quelques semaines, 2-3 mois qui ont suivi cette intervention où Dieu a dit « Non, ce ne sera pas Eliezer, mais ce sera un enfant qui sort de tes entrailles », Abraham et Sarai, ah, un enfant, il a dit Dieu, qui sort de tes entrailles, chérie. Ben oui, le Seigneur, il m'a dit ça, Sarai, écoute. Et moi, j'ai une super idée. Tu vois, ma servante Agar, ben, si tu couches avec elle, peut-être aurais-je des enfants par elle. Mais comme ça, la descendance, elle sort de tes entrailles. Tellement tordu. Et voyez qu'en réalité, quand vous lisez bien l'histoire, vous vous apercevez que Dieu n'a pas besoin de nos idées, frères et sœurs. Il n'a pas besoin de nos idées. Nous, on a besoin d'être à ses pieds, de recevoir ses plans et de les exécuter. Mais Dieu n'a pas besoin de nos grandes idées surtout, hein, ni des miennes, hein, on est d'accord, hein, je me mets dans le lot. Hein. Dieu n'a pas besoin de nos grandes idées surtout et de nos miracles humains. Ismaël devient un miracle humain, mais n'est pas un miracle, ce n'est pas le miracle de Dieu. Et puis ensuite, quand vous lisez le récit, vous vous apercevez Abraham, Sarai, Agar, Ismaël, Isaac, cette espèce de foyer recomposé. Là, il y a des tensions, il y a du mépris, il y a de la douleur, il y a de la dispute, il y a du conflit, il y a des rejets. Et je te renvoie, Agar. Et puis finalement, j'ai pitié d'elle, elle revient. Et puis finalement, il faut la renvoyer. Et puis, oh là 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 là, mais quelle misère de vie! Mais les chrétiens, eux, ne se mettent jamais dans une misère de vie. Les chrétiens ne se mettent jamais dans le pétrin, bien sûr. Ça n'existe pas. Et voyez ce que m'enseigne ça. C'est que Abraham et Sarai, s'ils avaient fait, au moment où ils ont eu une idée qui était complètement nulle, s'ils avaient fait de la prière à ce moment-là leur premier recours, Dieu leur aurait dit, non, vous ne faites pas ça. Et ils auraient évité tellement de douleurs et tellement de souffrances. Alors, la prière, premier recours ou dernier secours? Parce qu'il y a eu la grâce de Dieu, bien sûr. Il y a même eu un plan sur Ismaël. Dieu a un plan pour Ismaël. Dieu a un plan pour le peuple musulman. Il y a un plan. Amen. Dieu est un Dieu de grâce surabondante. Mais combien de douleurs Abraham, bien sûr que David a été restauré par la repentance, bien sûr qu'Abraham et Sarai sont finalement revenus dans le plan de Dieu, mais combien de douleurs et de souffrances ils auraient pu s'épargner. Regardez une femme comme Anne, premier livre de Samuel. Anne est dans le temple. Ah, il y a aussi autre chose que je veux vous dire, qui est extrêmement important. Avec Abraham et Sarai. Et ça, c'est vraiment en me plongeant plus dans... en regardant le texte de près, en allant dans la profondeur des textes et de l'histoire, vous vous apercevez, bien-aimés, que même si Dieu veut faire grâce, il a un plan pour Ismaël, il a fait des promesses pour Ismaël, ok. Mais Ismaël, c'est le miracle, et je mets des grosses guillemets hein, pour ceux qui écouteront le message en ligne, hein. Je mets des grosses guillemets, Ismaël c'est le miracle humain, Isaac c'est le miracle divin. Et vous vous apercevez que même s'il y a une grâce de Dieu, retenez ça, vous pouvez le graver dans vos Bibles et au-dessus de vos lits. Le miracle humain fera toujours la guerre au miracle divin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le miracle humain, ce que j'ai voulu produire par moi-même, fera toujours la guerre au miracle divin, à ce que Dieu voulait faire à l'origine, avant que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Elle est profonde, la parole, hein? Anne, dans le temple, Anne, elle s'en remet à Dieu. Seigneur, vraiment un récit là encore extraordinaire. Anne est en souffrance, elle est stérile, elle est, vous connaissez le récit, hein, premier livre de Samuel, chapitre 1er, elle est mortifiée par Pénina et c'est une douleur terrible pour elle. Elle a une blessure intérieure de ne pas pouvoir donner d'enfant et c'est vraiment tellement... tellement à la fois humiliant, c'est un tellement que c'est tellement dans le cœur d'une femme, c'est horrible. Elle voudrait avoir un enfant, quoi de plus légitime? Malheureusement, Elkana, son mari, il est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il est lourd. Il capte rien du tout, quoi. Pardon, hein? Il est lourd, il capte rien. Mais ma chérie, t'as pas d'enfant. Mais tu m'as moi. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ben non, Elkana, t'es lourd, arrête. Un mari, c'est un mari, un fils, c'est un fils. Il comprend rien. Et mes sœurs, les frères, c'est vrai que des fois, vos maris, hein, ils comprennent rien du tout, hein. Hey, on fait pas, nous les hommes, on fait pas dans la finesse. Hein. Ah là là, on n'est pas des fins experts de la psychologie féminine. Hein. Mon Dieu. Bon là, ce soir, je sais, je me suis fait plein de copines. Hein, toutes les sœurs sont en train de mettre un coup à leur mari. Il est bien ce pasteur quand même. Hein, il est bien. Attendez mes sœurs, j'en ai une pour vous après. Hein, vous emballez pas. Mais c'est vrai. Mais et Elkana, il rajoute une douleur supplémentaire. Il n'est pas fin, il la console même pas, il fait qu'empirer les choses. Et hélas, Anne, elle est inconsolable. Et ce que je vois, c'est que Anne ne va pas entrer dans des argumentations, dans des combats charnels, dans des disputes stériles, elle ne va pas essayer. Anne, elle a compris, elle n'a qu'un seul refuge, c'est la prière. Prière, premier recours. Ça ne sert à rien de discuter avec Elkana, ma sœur. Il y a des moments où il va falloir arrêter de discuter avec ton mari. Tu ne produiras rien. Mon frère, des fois, il faut arrêter de discuter avec ta femme. Tu ne produiras rien. Tu n'amèneras rien de plus. La prière, premier recours. Et en plus, elle est dans le temple. Elle prie. Et là, non seulement son mari ne comprend rien, mais en plus, elle était tombée sur une année, il n'y avait pas un bon pasteur. Et même le pasteur qui s'appelle Élie à ce moment-là, rien avec Élie, rien à voir avec Élie qui symbolise les prophètes avec un E, E-L-I-E, mais Élie le sacrificateur qui avait Ophni et Phiné comme fils, premier livre de Samuel, Élie, le pasteur de l'époque, il ne comprend rien du tout. Il la voit en train de comme ça. Puis il dit, oh, tu ne peux pas aller passer ton vin ailleurs, non? Tu n'as pas honte de venir à l'église? Arrête. C'est ça qu'il lui a dit. Mais elle, dans sa souffrance, incomprise de son mari, incomprise de son pasteur, personne autour d'elle pour lui donner le moindre bon conseil ou pour la consoler, faussement accusée, elle a continué de se réfugier dans le Dieu qui écoute la prière. Sa prière, tout de suite, a été son premier recours. Et elle a engendré Samuel. Dieu entend. Dieu entend la prière. Dieu m'a entendu. Et ça a été une grande bénédiction pour elle, ce fils Samuel, et aussi pour le peuple de Dieu, puisqu'on sait qu'elle prophète Samuel a été, évidemment. Regardez, je continue, je termine avec juste ces deux petits points, après il n'y a plus rien. Contexte d'adversité, dans un contexte d'épreuve, les disciples, dans leur tempête, je mets dans les tempêtes parce qu'ils en ont connu deux successives. La première, c'est celle où Jésus est à la poupe et il dort. La deuxième, c'est celle où Jésus arrive sur les eaux, marchant, et là ils ont peur, et c'est là que Pierre va enjamber la barque. Les disciples, dans les tempêtes, la première chose qu'ils font, Jésus est là. Jésus ne peut pas être fatigué au point de dormir. Personne ne dort dans une espèce d'embarcation de, comme ça, avec des vagues, une tempête. Personne n'est fatigué à ce point-là. Jésus est en train de leur véhiculer un enseignement. Il est en train de leur montrer que même dans le pire, on peut connaître une paix qui surpasse toute forme de circonstance. Mais les disciples, ils ne percutent pas, ils ne perçoivent pas ce que Jésus essaye de leur enseigner pendant qu'il est en train de dormir à la poupe. Alors les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ben, comme nous, c'était eux aussi des maniaques du contrôle et ils voulaient tout gérer. Donc, ils cherchent à écoper l'eau. C'est typiquement humain. Pourquoi? C'est fou, hein? C'est incroyable. Pourquoi voulons-nous absolument gérer des situations, quand ce n'est pas des gens, mais là, un minima, des situations, et trouver des situations à des tempêtes que Dieu lui-même a permises, sur lesquelles lui seul est souverain, sur lesquelles lui seul pourra apporter une solution en son temps, une réponse, une solution. Et eux, ils ont tout essayé de gérer par eux-mêmes. Le seul qui peut la contrôler, c'est Dieu. Celui qui en est, on va peut-être pas dire l'initiateur, mais en tout cas qui l'a vu venir dans sa préscience et qui a des enseignements à nous communiquer et qui, lui, l'a permise et qui reste souverain, même sur le pire, sur le plus catastrophique, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu veux gérer quoi, là? C'est une tempête, c'est ingérable. Puis la deuxième fois, rebelote. Et cette fois-ci, Jésus arrive marchant sur les eaux, après la multiplication des pains. Jésus les renvoie, et puis il va les rejoindre à la quatrième veille de la nuit, marchant sur les eaux. Et là, pour les disciples, malheureusement, de nouveau, et il faut qu'ils essayent, ils essayent de tout gérer. Et quand Jésus arrive se montrant sur eux, marchant sur les eaux, ils ne comprennent même pas, ils croient que c'est un fantôme, ils ne comprennent même pas que ça peut être Jésus. Et Jésus, dans sa grâce, parce qu'il nous secourt toujours par sa parole, parce qu'il vient au secours de notre foi, il leur dit « Rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi ». Mais quand il dit « c'est moi », il dit « ego emi, je suis Dieu ». Il dit « rassurez-vous, ego emi, le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui créateur, ego emi, est en train de vous rejoindre dans votre tempête ». Et là, le seul qui, à un moment, fait un début de progrès, c'est Pierre. Et Pierre qui dit, puisque tu es Dieu, c'est ça que ça veut dire le dialogue, puisque tu es Dieu sur ma tempête, Seigneur, ordonne que je marche avec toi sur les eaux. Ce qui signifiait en termes pratiques, Seigneur, permets-moi de dominer aussi sur tout ce qui m'a fait peur jusqu'à ce jour, sur tout ce qui devrait m'engloutir. Seigneur, permets-moi de régner avec toi dans la vie, de régner sur les circonstances contraires. Puis Jésus lui dit, bon alors d'accord, il va falloir que tu lises le livre de un tel avec toutes les clés pour comprendre la voilà. Ensuite, il faut que tu achètes le manuel de un tel parce qu'il faut, etc. Puis quand tu auras la formation de ceci et la formation de cela, tu commenceras au bout de peut-être entre 10 et 15 ans de vie chrétienne, peut-être à expérimenter un semblant de paix et peut-être que tu dormiras un petit peu mieux la nuit quand tu auras des problèmes. Seigneur, puisque tu es Dieu, ordonne que je vive comme toi, que je vienne et que je domine sur tout ce qui veut m'engloutir. Puis Jésus lui a dit, ben viens. C'est simple avec le Seigneur. Ben viens. Tu veux vivre comme moi? Ben enjambe ta barque. Viens. Et là, sa prière, c'était vraiment, ah Seigneur, pour que je vive comme toi. Contexte d'épreuve et d'adversité. Josaphat, 2 Chroniques chapitre 20, est là aussi dans l'adversité. C'est une autre forme de tempête qui s'abat sur lui. Il y a une coalition de rois ennemis, il y a une coalition de 5 rois qui se dressent contre le royaume et qui viennent contre lui, contre Juda. Il nous est dit que Josaphat, la peur parfois peut engendrer des choses salutaires. Il nous est dit que Josaphat, dans sa peur, Josaphat eut peur, et Josaphat, dans sa frayeur, commença à chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, il disposa son cœur à chercher l'Éternel et tout le peuple avec lui. Et c'est là qu'il fait cette prière extraordinaire. Mais la prière a été son premier recours. Seigneur, tu vois les ennemis qui sont en train de venir contre nous. Tu vois de quoi ils nous menacent. Tu connais, Seigneur, quels sont les enjeux, etc., etc. Une fois qu'il a succinctement décrit la situation, il dit, Seigneur. Et la réalité, c'est que nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Mais nos yeux sont sur toi. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur va commencer, ils vont recevoir des paroles, ensuite ils vont initier des chantres, des musiciens. C'est un texte extraordinaire de Chronique 20 pour pouvoir parler, démontrer aussi la puissance de la louange. Et là, à ce moment-là, Josaphat avec le peuple vont vivre quelque chose d'extraordinaire. Ils ne vont même pas se battre. Parfois, il y a des combats dans la vie chrétienne, c'est vrai, il faut se battre. Puis des fois on dit, ah ouais, le combat est dur, mais t'inquiète pas frère, c'est pour que la victoire n'en soit que meilleure. En attendant, je veux dire, quand tu te bagarres, tu vois pas, c'est... des fois on a des phrases toutes faites, je suis pas sûr que ça console vraiment, mais tu sais frère, c'est dur, hein, mais la victoire n'en sera que meilleure. Ouais, merci, t'as que ça à dire, super. C'est comme les gens qui vous disent, tu sais, hein, je suis convaincu que même si c'est dur, le Seigneur a un plan pour toi. Merci, j'avais pas pensé. On a des paroles toutes faites des fois, mais le Seigneur, il n'a jamais de paroles toutes faites, lui. Et là, Josaphat, il reçoit des paroles, et avec le peuple, parce qu'ils ont fait de la prière leur premier recours, ils vont remporter une victoire sans combattre. C'est Dieu qui se tient en embuscade, et c'est Dieu lui-même qui va régler le problème. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait de la prière leur premier recours. Alors, dans un contexte d'injustice, de persécution, dans un contexte de péché, dans un contexte de besoin, de manque, quel que soit ce besoin, dans un contexte d'adversité, d'épreuve, qu'en pensez-vous ? La prière, premier recours ou dernier secours ? Amen. On se recueille, on prie ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ce merveilleux moyen.